Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Frédéric. Eh bien, avec Jean-Frédéric Henry, nous entrons dans l'univers d'Altarea, puisque après avoir réalisé des immeubles prestigieux, il anime aujourd'hui Altarea Entreprise Studio, qui réfléchit et prépare les plus beaux immeubles de bureaux de l'après-Covid. Mais nous allons d'abord parler, évidemment, au moins d'une réalisation très spectaculaire, magnifique, qui s'appelle Bridge, qui est à Issy-les-Moulineaux. Jean-Frédéric, pouvez-vous nous dire quelques mots de la phase de conception de cet immeuble ? À quel moment ? Pour quel utilisateur ?
Bien, Bridge, en fait, c'est ce qui peut arriver de mieux à un promoteur. C'est un immeuble qu'on a conçu à partir de 2015 et qu'on vient de livrer à son utilisateur, qui est Orange. C'est le premier siège que se crée Orange. Mais à la base, c'est un immeuble en blanc, un pur immeuble de promoteur, conçu avec nos convictions de promoteur, imaginé en blanc sans en connaître l'utilisateur, mono ou multi-utilisateur d'ailleurs, et dans un cadre économique réel. Ce n'est pas du tout une danseuse que se serait payé un groupe avide d'images. C'est vraiment un immeuble flexible, ouvert sur la ville, adapté aux nouveaux usages, une architecture porteuse d'images. Ça, c'était nos convictions d'immeuble de promoteur. Et qui rencontre un utilisateur qui décide d'en faire son siège. En fait, c'est un immeuble en blanc qui est devenu Orange.
Très intéressant. Et alors, c'est donc un immeuble conçu avant le Covid et livré après. Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui si vous deviez le concevoir, ou peut-être plus intéressant, qu'est-ce que Orange a décidé de changer et de modifier, à la fois pour se l'approprier et à la fois compte tenu du nouveau monde dans lequel nous entrons, paraît-il, et dans lequel il jouera sans doute un rôle important.
Je crois que le Covid n'a pas créé de nouveaux usages. En fait, le Covid a été un accélérateur de changements qui préexistaient et que nous avions détecté. Simplement, pour pouvoir s'adapter, il fallait que l'immeuble soit flexible. Or, l'immeuble, il était déjà flexible parce que c'était une de nos exigences de base, au-delà même du Covid. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est entré dans une période où le monde du travail, le monde de l'entreprise, change plus vite que le monde de l'immobilier. Et donc, un immeuble de bureau doit être réaménageable, reconfigurable, transformable, en un mot, agile. Et le Covid a vraisemblablement tout changé dans la vie de l'entreprise Orange, mais n'a rien changé dans la conception de l'entreprise. À ma connaissance, ils ont juste décidé de mettre sur roulette une partie du mobilier qu'ils avaient imaginé pour pouvoir s'adapter à des règles de distanciation sociale qui évoluaient au cours du temps. Mais sur la conception de base de l'immeuble, rien du tout.
Déjà très, très, très intéressant et très différent. Alors, je voudrais aborder un autre sujet. On parle de plus en plus de métabolisme avant de parler morphologie. Les lois du vivant nous enseignent que toute espèce dépend de son milieu naturel. Alors, pour Bridge, en quoi Bridge influe-t-il sur Issy-les-Moulineaux et sur l'entrée de ville ?
Ben, on parle d'un immeuble de 56 000 m². Donc, en fait, d'abord, c'est extrêmement rare d'avoir aujourd'hui la chance de construire un immeuble neuf de cette taille qui ne soit pas une tour. C'est un vrai quartier. En fait, c'est un morceau de ville. Et en plus, c'est une entrée de ville, une des portes d'Issy-les-Moulineaux. Donc, en fait, quand on construit un immeuble de 56 000 m², on a une influence sur la ville, on a un impact sur la ville. Et ma conviction, c'est que cet impact, il peut être négatif, mais il peut aussi être positif. L'immeuble, il peut apporter quelque chose à la ville. Alors, je vais être concret, plusieurs exemples. Premier exemple, le plus simple, je dirais le premier degré, c'est que l'immeuble, il est raccordé au réseau urbain du quartier. Réseau de chaud, réseau de froid, réseau pneumatique d'évacuation des déchets. On va dire c'est le béaba. Pour reprendre votre terminologie, l'immeuble se greffe et alimente ses réseaux. mais je voudrais citer tout de suite un deuxième exemple, un autre type de réseau, les transports en commun. Ce serait criminel aujourd'hui d'imaginer de construire un immeuble de bureaux de plus de 50 000 m² si on n'avait pas les transports en commun directement dans l'immeuble. Bon, il se trouve que Bridge est desservi directement par le RMRC et le tramway T2. Les trains débarquent littéralement sur le trottoir de l'immeuble. C'est évidemment capital en termes d'impact carbone dans la vie de l'immeuble, mais l'impact urbain de Bridge va au-delà. Concrètement, les quais du RER et du tramway qui préexistaient, ils étaient perchés à 6,50 m au-dessus du sol. Les utilisateurs devaient prendre un escalier ou un ascenseur chaque fois qu'ils voulaient prendre le tramway ou le RER. Et en décidant de créer un parvis public végétalisé qui relie en pente douce les quais du train aux quais de la Seine, Jean-Paul Viguier crée non seulement un parvis pour l'immeuble d'Orange, mais il change littéralement la vie quotidienne de tous les habitants et de tous les utilisateurs du quartier. Troisième exemple, on peut dire que Jean-Paul Viguier a travaillé à l'échelle urbaine, quasiment à l'échelle de la géographie. L'immeuble apparaît aujourd'hui comme un objet sculptural, mais en fait, chaque façade a répondu à une conception bioclimatique. On a une façade nord, toute simple, toute lisse, très vitrée. Ça tombe bien parce qu'elle n'a pas besoin de protection solaire. Et ça tombe très bien parce qu'elle a des vues magiques sur Paris et la Tour Eiffel. À l'inverse, les façades est et ouest sont vitrées à 50% et opaques à 50%. C'est ce qui permet d'être efficace thermiquement. Encore une fois, ça tombe bien parce que ce sont les façades qui sont exposées au bruit, aux nuisances sonores des quais de la Seine ou des trains. Et enfin, la façade sud, celle qui est rue Rouget de Lille, c'est celle qui marque l'entrée de ville. C'est donc la plus expressive, avec le jeu des boîtes qui entrent et qui sortent de la façade, dont un spectaculaire porte-à-faux de 14 mètres. Jean-Paul s'est un peu lâché là-dessus. Mais aucun de ces gestes n'est gratuit. Parce que comme on est en façade sud, chaque saillie crée des ombres portées qui protègent les étages inférieurs. Finalement, on peut dire que Jean-Paul Viguier a trouvé un principe qui permet d'obtenir une façade spectaculaire, qui marque l'entrée de ville d'ici les Moulineaux, mais tout en utilisant des principes low-tech. Même l'atrium central, qui fait 70 mètres de long, 44 mètres de large, 32 mètres de haut, est un des plus spectaculaires de France. Il a été conçu comme un espace tempéré, c'est-à-dire ni chauffé ni climatisé. On est en fait dans un immeuble responsable. C'est un mélange de frugalité et de haute technologie. Et puis, dernier exemple, l'histoire. On est sur un terrain sur lequel était implantée une halle Eiffel, construite à la fin du 19e siècle. Cette halle, elle n'était ni classée ni inscrite, mais c'était un témoignage majeur du passé industriel d'ici les Moulineaux, et le maire exigeait qu'elle soit maintenue sur le site. Nous avons fait le choix, avec Jean-Paul Viguier, de démonter cette halle qui avait déjà eu plusieurs vies. Ce n'est pas une aberration d'un point de vue historique ou environnemental, puisque c'est une halle Eiffel construite en pan de fer, donc qui a déjà été démontable, qui était modulaire à sa conception. De la restaurer et de la réimplanter directement en entrée de ville, extrêmement visible, en créant un lieu ouvert au public et qui va participer à l'animation du quartier. Voilà exactement le genre d'intervention dont on considère qu'elles font partie de nos engagements, de notre responsabilité de promoteur. Et c'est ce qui nous fait dire chez Ataria qu'on n'est pas seulement des promoteurs de bureaux ou de commerce ou de logement, mais qu'on est vraiment entrepreneurs de ville.
Au fond, qu'est-ce que ça nous dit, Bridge, mais j'aurais pu dire aussi la Tour First à la Défense, ou le siège social de Dior, ou votre propre siège social rue de Richelieu, d'Altaria. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'immeuble de bureau actuel, ou de demain, comme on dirait c'est-à-dire, est-ce que au fond, c'est toujours... Ça se définit toujours comme la somme des productions individuelles de chacun de ses salariés, de ses utilisateurs, des salariés de ses utilisateurs plus exactement. Est-ce que c'est toujours ça?
Je pense que là, on est évidemment sur un changement majeur de ces dernières années. Depuis 5 ans, j'explique que l'immeuble de bureau n'est plus un lieu de production individuelle, mais d'abord un lieu de communication et d'échange. Le temps où on arrivait à 9h, on s'asseyait à son bureau, devant son PC, et où on produisait quelque chose jusqu'à 18h, est révolu. Aujourd'hui, les DRH ont bien compris qu'on est aussi, voire plus productif, quand on échange avec des collègues en réunion, mais aussi à la machine à café, sur un palier d'ascenseur, sur une terrasse, et que ce sont ces échanges qui sont la valeur ajoutée de l'immeuble de bureau. C'est la sérendipité dont on entend parler dans tous les colloques. Mais ce n'est pas une réflexion philosophique, c'est du concret. Concrètement, quand on a conçu Bridge, il y a 5 ans, les immeubles de bureau comportaient environ 10% de salles de réunion. 10% de la surface était allouée aux salles de réunion. Sur Bridge, c'est 30%. C'est un impact majeur, parce que ça impacte la conception technique de l'immeuble. Climatisation, issue de secours, ascenseur, synthèse technique. Et puis, ce n'est pas que du quantitatif, c'est du qualitatif. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça aurait été considéré comme une faute professionnelle d'implanter des salles de réunion ailleurs qu'en sous-sol ou dans le noyau. Ben, aujourd'hui, on n'accepte plus de passer une matinée, une après-midi dans une salle de réunion aveugle. Sur Bridge, les salles de réunion sont évidemment toutes en premier jour. Et au-delà de ces salles de réunion, ce sont des ascenseurs vitrés, ce sont des paliers d'ascenseurs vitrés, ce sont des escaliers qui invitent à les utiliser. Ce sont des terrasses, 3500 m2 de terrasses végétalisées surplombant la Seine. Et des balcons. Et tout ça autour d'un des atriums les plus spectaculaires de France, conçu non pas comme un lieu monumental, mais d'abord comme justement un lieu d'échange, un lieu habité, un lieu convivial, un lieu agréable. Et ça ne s'obtient pas avec un claquement de doigts. En fait, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur un sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas, qui est le confort acoustique, sur le temps de réverbération, pour donner une impression de confort, de tranquillité, mais aussi de vie, et non pas un effet cathédrale ou hall de gare. Puis sur un autre aspect, on a dû mener à la fois des simulations et des discussions poussées avec les organismes de sécurité, les sapeurs-pompiers, les architectes de sécurité, le labo central de la préfecture de police, pour pouvoir ouvrir certains espaces sur cet atrium et pour pouvoir employer des matériaux, tels que du bambou, pour donner une impression de chaleur et de convivialité et ne pas créer un lieu glacial comme beaucoup d'immeubles de bureaux. Toutes ces études acoustiques, luminosité et sécurité, on a pu les mener en fait dès la phase conception, grâce notamment à l'utilisation d'une conception complète en 3D avec une maquette numérique. Vous voyez, c'est à la fois des parties fortes de conception architecturale, à la base même du geste premier, mais aussi un travail technique poussé jusque dans le détail. Et je crois qu'Orange, qui est à la fois un énorme groupe de télécommunications, une entreprise majeure du CAC 40, mais aussi une entreprise d'un secteur qui est en pleine évolution, avait su détecter toutes ses potentialités dans le projet Bridge, pour en faire son siège.
Il nous reste peu de temps pour conclure. Est-ce que vous écriviez en 2016 qu'au bureau, on doit être mieux qu'à la maison. Mieux qu'à la maison. Est-ce que vous pourriez, il nous reste peu de temps, mais nous en donner un ou deux exemples, nous dire en quoi ?
Ouais, en 2016, si vous vous souvenez, c'était l'époque où on nous expliquait qu'il suffisait de mettre un baby-foot, des plantes vertes et des fauteuils bas pour réinventer l'immeuble de bureau.
Absolument.
Il fallait donner l'impression d'être au bureau comme à la maison. Or, en fait, on vient chercher autre chose dans l'immeuble de bureau. On vient chercher ce qu'on n'a pas chez soi, la possibilité de rencontre. On ne peut pas organiser des réunions à 6 personnes dans sa cuisine. On vient aussi chercher du confort et de la technique. 2016, c'était l'émergence du coworking, c'était la découverte des outils de mobilité, le smartphone, les tablettes, tout ce qui nous permet aujourd'hui de travailler depuis chez soi, depuis une gare, depuis chez un client, depuis chez un fournisseur. En fait, on avait réalisé une étude qui s'appelait « Le futur du bureau » et non pas « Le bureau du futur ». Parce qu'on se demandait même s'il y aurait toujours demain des immeubles de bureau. Là, on vient de vivre une expérience de télétravail imposée, vécue par tous au même moment. Et notre réponse, c'est il ne faut pas être dans l'immeuble de bureau comme à la maison, mais mieux qu'à la maison. Ça ressemble à un slogan publicitaire, mais c'est du concret. C'est le confort thermique. Quand il y a une canicule, on est mieux dans un immeuble de bureau que chez soi. C'est le confort acoustique. Vous savez que l'acoustique, c'était le critère numéro un de rejet de l'open space. Bah, à Bridge, j'en ai bien, et donc on n'est pas réticent à venir travailler dans un espace partagé. Les conforts visuels et lumineux, c'est les terrasses, c'est les fenêtres ouvrantes qu'on avait oubliées dans les immeubles de bureaux et qu'on retrouve. Et puis c'est aussi de la technique, c'est une connectique informatique haut débit sécurisée, avec par exemple une desserte en fibre optique jusqu'à chaque poste de travail. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on fait face à un virus, mais demain on pourrait très bien avoir affaire à un cybervirus. Il sera toujours plus facile de sécuriser un siège de bureau que de sécuriser les logements des 3000 salariés. Et ce sont des sujets très concrets et qu'on avait imaginé avant le Covid. L'expérience du Covid nous amène à conforter nos convictions. Alors quand le 18 mars, on a remis les clés à Stéphane Richard, PDG d'Orange, qui est à la fois un opérateur et un acteur majeur du télétravail, et qui nous dit, premièrement, qu'il ne croit pas au modèle 100% télétravail, et deuxièmement, que Bridge donne envie aux salariés d'Orange de revenir au bureau, voilà, c'est on nous prend comme une médaille.
Merci infiniment, Jean-Frédéric. C'est une, c'est un très bel éclairage sur cette nouvelle génération dont vous êtes un des acteurs très à la pointe. Merci infiniment et à bientôt.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.